France Musique.
Karine Le Bail, un air d'histoire. France Musique.
S'il y a un mythe dont n'ont cessé de s'emparer les musiciens, c'est bien celui des sirènes entre celles d'Homère jusqu'à la Lorelei chez Heine. Un air d'histoire va plonger, c'est le cas de le dire, dans quelques eaux profondes en compagnie de Luigi Spina, auteur avec Maurizio Bettini d'un livre sur le mythe des sirènes, paru en français chez Belin en 2010. Il sera donc beaucoup question de musique dite savante aujourd'hui, mais s'il y a une chanson absolument incontournable, c'est bien celle du grand Charles Trenet.
L'horloge file les légendes, l'horloge j'entends ta voix. L'horloge, toi qui demandes un peu d'amour, ne serait-ce qu'une fois. L'horloge, le fleuve triste, l'horloge porte ta chanson. Personne n'y résiste, et bien qu'elle soit une illusion, l'horloge. Chacun répond, chacun te dit dans un murmure, oh mon bel amour, je vois l'or de ta chevelure, attends-moi, j'accours. Mais ce n'était qu'un beau mirage, du soleil ardent, l'horloge dans un nuage s'efface, et pourtant, l'horloge file les gens en deux. L'horloge, tu reviendras cette nuit, nue sur la lande, danser encore et t'enfuir dans les bois. L'horloge, la lune blême, sourira de tes amants quand ils diront je t'aime en te cherchant éperdument. L'horloge, au firmament, l'horloge. Lorelai, 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 au firmament.
Sur la scène de l'Olympia en 1956, c'était Charles Trenet, Lorelai. Bonjour Luigi Spina.
Bonjour.
Vous arrivez tout juste d'Italie,
oui.
Bologne.
De Bologne.
Vous êtes philologue classique, oui. Spécialiste des mythes antiques et de leur circulation dans nos sociétés contemporaines. Oui. J'aurais envie de vous poser une question tout d'abord sur la discipline de la philologie qui n'est sans doute pas familière pour tous les auditeurs de France Musique. Qu'est-ce que la philologie ?
La philologie a la tâche d'étudier les textes, mais sans oublier que le texte ont été écrits par des hommes. Donc, je dirais que la philologie doit avoir recours à l'anthropologie, à la linguistique, à la psychologie, pour être une philologie à visage humain, nous disons.
Donc, se rapprocher du texte vivant.
Oui, tout à fait.
Alors, j'ai annoncé en tout début d'émission un plongeon pour aller à la rencontre des sirènes, mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, Luigi Spina, si l'on s'en tient au premier grand récit, justement, antique que vous étudiez. Elles ne sont pas dans les mers, les sirènes.
Chez Homère, nous voyons pour la première fois les sirènes quand Circé, en quittant Ulysse, met en garde contre la voix des sirènes. Elle dit... Tu arriveras d'abord chez les sirènes dont la voix charme tout homme qui vient vers elle. Donc, le chant, la voix et le charme.
Mais la sirène se trouve-t-elle dans l'eau?
Oui, la sirène se trouve dans une île. Il s'agit chez Homère de deux sirènes peut-être, mais nous ne les voyons pas. Ulysse seulement peut-être le voit car il est lié par les marins, et tandis que les marins ne l'écoutent pas. Donc il y a une situation différente de voir sans pouvoir agir et d'écouter et de voir sans écouter.
Oui, parce qu'il s'est lié les mains, il s'est attaché.
Oui, les marins ont la cire dans les oreilles Ulysse a mis la cire en suivant les indications, le renseignement de Circé.
Mais ça se termine plutôt mal quand même, cette histoire.
Oui, mais Ulysse écoute, elle demande d'être libérée par le lion et le marin le laisse lier. Et enfin, le sirène se suicide peut-être. Mais il quitte Ulysse qui est passé sans danger, sans risque. Donc nous avons peu de le récit d'Homère, seulement que les sirènes ont une voix, une chante qui séduit, qui fait rester le marin sans désirer plus, se retourne chez la femme, chez le fils.
Alors on n'a pas d'informations sur la nature de ce chant, on reviendra sur les qualificatifs de ce chant, mais on va écouter comment Claude Debussy se représente la voix de ces sirènes, dans extrait évidemment des Nocturnes de Claude Debussy. C'est un extrait du troisième des Nocturnes de Claude Debussy. Sirène, Bernard Haitink dirigeait l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam et le Collegium Musicum Amstello d'Amsée, ce cœur de femme à voix fermée. Vladimir Yankelevitch, dans La musique est l'ineffable, rappelle qu'elle ne chante pas des paroles. Et il écrit « Elles sont une voix collective et impersonnelle, un timbre instrumental. Les sirènes sont la voix élémentaire de la séduction, Luigi Spina. »
Oui. Quand Ulysse retourne à Ithaque, il dit à Pénélope, j'ai écouté le son de la voix persistante et sans fin des sirènes. Donc persistante, il signifie un son aigu et continu qui est capable de séduire. Et puis, il est pas seulement un son, mais aussi des mots. Chez Homère, nous écoutons le mot que le sirène donne à Ulysse. Elle parle d'Ulysse même. Elle dit « Tu écouteras, si tu te demeures chez nous, écouteras ta vie ». Donc, elles sont capables de parler de la vie de l'homme. Et donc, il demande un peu le narcissisme de l'homme, qui est très heureux de sentir parler de soi-même.
Une des interprétations possibles et nombreuses que l'on retrouve dans votre ouvrage avec Maurizio Bettini, donc sur le mythe des sirènes, multiples interprétations, multiples origines aussi. L'Antiquité s'empare de ces sirènes et on leur attribue plusieurs origines.
La biographie des sirènes est très différente, il a beaucoup de différences. Et ils ont un père, peut-être une rivière à Kélo, et puis beaucoup de mères, mais les mères plus remarquées sont les muses, qui sont spécialisées dans la poésie, dans le chant, dans la tragédie.
Mécomène, hein,
c'est dans la poésie. Et donc, peut-être que la capacité de chant de sirène est liée à la maternité, à la mère, à les muses en général. Quelqu'un de muse ou les muses tout ensemble. Et dans l'Antiquité, le mythe a ses caractéristiques d'être différente. On peut le raconter en différentes façons.
Il y a quand même ce récit, effectivement, où il y aurait cette muse Melpomène qui s'accouplerait avec un père fleuve, Akhélo. C'est un très joli récit, quand même, cette histoire. Vous pouvez nous la raconter ?
L'histoire de Proserpine qui avait les sirènes comme compagne et elle a été envolée par le dieu de l'Hade et les sirènes sont devenues des oiseaux car elles ont demandé au dieu de chercher sa compagne. Donc ils sont allés par tout le monde à la chercher et ils ne l'ont pas trouvée. Donc ils ont demandé d'avoir des ailes pour devenir des oiseaux. Et donc elles sont devenues sirènes, ont connu ces métamorphoses pour cette aventure avec Proserpina.
Donc la première transfiguration et la première métamorphose de la sirène, dans l'Antiquité, ce n'est pas la femme poisson, mais l'être hybride et femme oiseau.
Oui, de jeunes filles, elles sont devenues oiseaux. Et puis, dans le 6e, 7e siècle après Jésus-Christ, et nous trouvons ces transformations en femmes poissons. Mais il n'y a pas de recette de métamorphose. Donc, il s'agit seulement peut-être d'une métamorphose visuelle. Car on est habitué à voir les sirènes dans l'eau, et donc on pense qu'il... Elles peuvent être des poissons, moitié femmes et moitié poissons.
Et est-ce qu'on pourrait imaginer que l'origine de cette transformation en femmes-poissons viendrait du fait que justement, dans une lutte, les sirènes ailées seraient mortes en fait et seraient tombées dans l'eau ?
Oui, seraient tombées dans l'eau, oui. Se sont suicidées, sont tombées dans l'eau. Et donc, elles sont devenues presque des poissons.
Thank you.
Un flot d'astres frissonne ce très beau morceau de Lily Boulanger, Les sirènes pour mezzo-soprano, chœur de femme et piano, où là on entend des paroles de ces sirènes, ces paroles dont vous nous disiez, Luigi Spina, en tout début d'émission, qu'elles s'adressaient, les sirènes, à Ulysse et qu'elles lui disaient quelque chose. Mais que font autrement les sirènes, à part parler? Elles sont déjà dangereuses dans la première antiquité?
Oui, ils sont dangereux chez Homère, selon le mot de Circé. Et puis, nous avons, à travers le récit d'Apollonio Rhodius, d'une joute musicale entre Orphée et les sirènes. Et Orphée joue sa chitare, et sa voix est la voix de la chitare, est supérieure à la voix de sirène, et elle se suicide après le passage d'Orphée. Donc Orphée, c'est le premier qui est supérieur à la voix des sirènes. Et puis, il y a un autre récit qui est seulement chez le mythographe, d'un joute de sirènes avec les muses, c'est-à-dire avec la mer. Et les muses emportent et ils ont arraché les ailes des sirènes. Et ces situations étaient dans une ville de l'île de Crète qui s'appelait Aptera, qui signifie en grec « sans sel ». Donc les sirènes sont restées pas oiseaux et seulement jeunes filles tombées dans la mer et sont devenues des prêtres, on dit quelquefois.
Alors restons dans cette interprétation, la première interprétation d'Homère, où il y aurait donc deux sirènes, pour écouter justement un duo, ce duo des sirènes que l'on retrouve dans King Arthur d'Henry Purcell. Et je vous propose donc d'écouter juste cet extrait. Ce très beau duo des sirènes, extrait de King Arthur d'Henry Purcell, toujours avec donc ces voix qui semblent surgir comme ça, absolument superbes, envoûtantes. Et pourtant, on verra un peu plus tard, en avançant dans le temps, que ces sirènes deviennent des êtres absolument terrifiants, notamment pour la chrétienté. Mais si on reste sur Ulysse, on va écouter tout à l'heure un extrait de l'opéra Ulysse de Luigi Dalla Piccola. Il y a quand même cette idée de joute, de duo, entre les sirènes et Ulysse. Vous évoquiez tout à l'heure que peut-être les sirènes avaient flatté le narcissisme de l'homme. Quelle est votre interprétation autrement aussi de face à face entre Ulysse et les sirènes?
Il faut se souvenir qu'il y a dans l'Antiquité un préjugé sur la voix de la femme. Et sous le danger que la voix de la femme a pour la communauté.
La communauté.
Les femmes ne parlent pas dans la vie politique. Et donc, la voix de la femme et la musique provoquent le même danger, car ils provoquent des sentiments irrationnels.
Voir l'amollissement, c'est ce que dit Platon dans
Oui, l'enthousiasme
de la République.
Qui est la, on n'est plus capable de se fermer, de se tenir, de contrôler ses sentiments. Donc, dans le mythe des sirènes, on a toutes ces caractéristiques. Le danger de la femme, le danger de la voix, le danger de la musique. Et la tendance, c'est de voir le défi des sirènes, de le voir perdre contre les hommes, contre les héros. Et donc Ulysse est le représentant des héros contre les sirènes.
Donc Ulysse, il est victorieux alors, il n'est pas dans la défaite.
Oui, il est le capable de passer et de retourner chez lui à Ithaque. Et des sirènes, on n'a plus de nouvelles. Sauf que les sirènes sont déjà de nouveau vivants. Ils se suicident 3 ou 4 fois dans le mythe, mais ils sont toujours vivants pour affronter de nouveaux dangers, de nouveaux risques et pour séduire des autres hommes. Tandis que le mythe des sirènes est toujours un mythe vivant. Pourtant, le défi est le suicide.
Alors pour les auditeurs qui lisent l'italien, on mettra sur le site un article d'un de vos collègues qui écrit justement, qui fait une analyse d'Ulysse de Luigi Dalla Piccola et qui nous montre à quel moment en fait le compositeur crée lui-même le thème en fait qui serait de l'ordre du thème de la sirène, représentant la sirène.
Oui, qu'il y a un problème de représenter la voix des sirènes. Et le même problème qu'il y a dans un film de 1954 de Camerini sur Ulysse, et les voix des sirènes dans ce cas et les voix du fils et de la femme d'Ulysses. C'est le film Ulysse de Camerini. Et car est difficile de représenter le ton de la voix des sirènes. Donc, Dalla Piccola, selon l'essai d'Angelo Meriani, et dans un moment particulier, on évoque la voix des sirènes et il y a des particuliers canons qui essayent de représenter ces mélodies, ces voix particulières, aiguës, séduisantes, mais aussi très persistant, comme disait Ulysse même.
Oh,
Et donc cet extrait de l'opéra Ulysse de Luigi Dalla Piccola qui représente donc ce thème de la sirène. Vous écoutiez ici l'orchestre philharmonique de Radio France et les chœurs de Radio France, un enregistrement assez ancien dirigé par Ernest Bourg.
Karine Lebaille, un air d'histoire, France Musique.
Le chant des sirènes dans Un air d'histoire aujourd'hui, en compagnie du philologue italien Luigi Spina. Nous avons évoqué, Luigi, tout à l'heure, justement, ces différentes presque métamorphoses des récits de ces sirènes tout au long de l'Antiquité. On va peut-être arriver maintenant au moment de la chrétienté, où tout va changer. En tout cas, si on hésitait entre la femme poisson et la femme oiseau, ouais. Là, on va plutôt du côté du poisson.
Oui, c'est la femme d'Agéreuse. Oui, la chrétienté récupère les sirènes, devient les représentants de l'hérésie, du pensée mauvaise, on peut dire. Et tandis que Ulysse devient quelquefois le symbole de l'Église et du Christ, avec l'albero du navire de la
le mât qui est attaché à la croix.
Et il arrive une autre chose intéressante. Ulysse devient sourde, comme les marins, au chant des sirènes. Le père de l'Église préfère imaginer qu'Ulysse n'écoute pas l'hérésie, donc il protégeait.
Les femmes pécheresses.
Protégeait, oui. Mm. Et donc il y a une tradition d'Ulysse comme les marins. Égalitarisme démocratique entre le capitaine et les marins. Ulysse aussi sourde au chant des sirènes, avec la cire.
Et puis il y a aussi une forme d'indétermination des sirènes sous l'Antiquité. Elles n'ont pas d'existence individuelle, oui. Alors que le Moyen-Âge va commencer à inventer des figures incarnées.
Oui, incarnées. Et nous avons chez Homère deux sirènes, mais sans nom, en collectif. Ouais. Et puis nous trouvons chez un poète hellénistique, Lycophron, trois noms pour la première fois, Parthénopée, Ligeia et Leucosia. Et puis nous trouvons des figures individuelles des sirènes avec un nom, avec une histoire particulière, qui tombe amoureuse d'un homme, etc. Donc il y a un passage dans ce domaine aussi de la individualisation et personnalisation d'un collectif anonyme qui était chez Homère, le deux sirènes.
Il y a aussi l'apparition de nouveaux instruments dans un texte d'Honorius d'Autun, vers 1150. Il écrit qu'elle joue du cor, par exemple.
Oui.
Le cor et la lyre seraient les instruments de la luxure, du péché, oui. Pour l'Église ?
Oui, pour la musique en général. Uh-huh. Et il y a une spécialisation entre les trois sirènes. Une chante et les autres jouent. Et donc aussi dans l'iconographie médiévale qui est très riche, nous voyons cette spécialisation de chant et instrumental, on peut dire. Et oui, il y a aussi la côté positif des sirènes. Dans le témoignage, il y a des figures des sirènes avec des sirénettes, de petites sirènes. À Strasbourg, il y a une iconographie dans l'église de Strasbourg. Et il y a une richesse extraordinaire.
Oui, ça fourmille de sirènes. Andersen, oui. Par exemple, là, cette fois-ci, lui, crée encore une autre figure, ces fameuses petites sirènes dont vous parlez.
Oui.
Celles-ci ne sont pas des représentations de la luxure.
Oui, nous arrivons au récit d'une sirène qui veut changer son état,
de femme
son
poisson,
status, oui, de femme poisson, et veut devenir une jeune fille. Elle tombe amoureuse d'un homme d'une ville et elle finit pour mourir d'amour car elle n'est pas capable de devenir une fille, une femme.
Donc on est encore une fois dans cette thématique de la métamorphose.
Et nous devons remarquer que la petite sirène d'Andersen et le film de Disney ont fixé la figure de la femme poisson. Nous connaissons la femme poisson, c'est difficile d'imaginer la sirène oiseau.
Oiseau, oui, elle a complètement disparu de notre imaginaire collectif. On va écouter un extrait de Rinaldo d'Endel avec cet air des sirènes. C'est Christopher Okout qui dirige l'Academy of Ancient Music. Les voix de ces deux sirènes, extraits de Rinaldo de Händel, lorsque Goffredo et Rinaldo, partant à la recherche d'Almirena, doivent résister au chant des sirènes. Et Rinaldo va tomber dans leur piège et il va accepter de les suivre dans l'espoir de retrouver Almirena. Donc là encore, Luigi Spina, dans toute cette imaginaire des compositeurs, la femme tentatrice, la femme pécheresse, ou en tout cas qui va entraîner l'homme loin de son destin, est très présente, notamment dans l'opéra baroque. Mais d'autres figures nous viennent du Nord, comme la Lorelai, et là, on est quand même dans un autre univers.
Oui, on a un changement de contexte social et de façon de recite, nous pouvons dire, car on parle souvent de la communauté humaine qui est proche la sirène, qui a quelquefois un rôle de fondatrice. On pense, par exemple, à la sirène de Varsovie. Mais le contexte social est différent. Donc, les pays du Nord, le rôle, la fonction de l'eau et de la communauté qui est liée à les activités de la pêche font de la sirène un personnage à moitié entre danger et positive.
Mais quelque chose dans la représentation, dans l'iconographie, quand même se transforme avec Heine quand il représente cette sirène, la Lorelai, qui est dotée d'une belle chevelure et qui quand même fait chavirer les marins.
Oui. Donc il y a une beauté extraordinaire. Donc l'hybride est oublié souvent. L'hybride est seulement au niveau de la choix de vie, vivre comme sirène ou vivre comme femme. Donc, nous avons des autres problèmes plus modernes, on pourrait dire.
Mais vous pensez que le mythe des sirènes aujourd'hui ne peut plus être aussi actif dans nos sociétés contemporaines?
Oui, on a des multiplications, on a multiplié les sirènes en forme de sirènes. On pourrait dire que tout le monde peut dire d'avoir vu quelques sirènes travesties de sirènes pour des festivals, mais aussi on use la métaphore des sirènes pour beaucoup de domaines. Dans le domaine politique, on parle souvent chez le média de le sirène de la droite, le sirène de la gauche, les sirènes du centre. On parle aussi de sirène de l'économie.
Donc c'est l'idée de l'appel, donc à la fois le mot sirène qui
il y a donc la séduction de quelque chose à éviter, comme Ulysse, à travers l'autocontrôle. Et les sociologues ont étudié le modèle Ulysse pour l'autocontrôle dans l'économie, etc.
Donc, le mythe de la sirène est quand même beaucoup plus actuel qu'on pourrait le penser.
Oui, donc la sirène est devenue le symbole, la métaphore du danger qu'on va écouter et éviter dans le même temps.
Ouais, on est extrêmement loin de nos Lorelai du 19e vraiment créent une forme d'imaginaire qu'on va retrouver chez Schumann, chez Clara comme chez Robert, ça c'est plus tard, mais également Shostakovich, on a comme ça tout un ensemble d'univers musicaux qui s'emparent de ces images de la sirène, et on a notamment ce très très bel opéra de Dvorak, Rusalka, avec sa chanson à la lune si belle, l'air de Rusalka, qu'on va entendre ici par Anna Netrebko avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Gianandrea Nozeda. Thank you. Salka, hein, cet esprit des eaux, hein, dans la tradition slave, ici dans l'opéra d'Anton Dvorak, Anané Trepko, Roussalka, chanté à la lune. Luigi Spina, nous avons évoqué la sirène de Varsovie, mais plus près de vous, puisque vous êtes napolitain d'origine, enfin de tout près de Naples.
De Salerne.
De Salerne. Il y a quand même le lieu par excellence d'une des trois grandes sirènes, Parthénope.
Oui, Parthénope, oui. Et le nom de Parthénope est lié à Naples. On avait un jeu de mots de notre acteur comique Toto qui disait « Je suis Parthénopeo », c'est-à-dire moitié nopeo et parte napoletano. Et donc Parthénope serait une de trois sirènes, selon le récit de Lycophron, morte après le passage d'Ulysse. Son corps est arrivé sur le lieu qui puis est devenu la ville de Naples. Et donc le premier nom de Naples serait Parthénope. Et puis le nom est resté utilisé par les poètes. Je voudrais citer le vers de Virgile qui dit « En ce temple-là, la douce Parthénope me nourrissait, moi, Virgile, en latin, illo Virgilium me tempore dulcis alebat Parthénope. » Et donc le nom est resté et on a une tradition musicale. On parle du mythe musical de Naples. Il y a un récent livre de Dinko Fabris, Parthénope da sirena a regina, de sirène à reine.
Et on
parle de la musique, de la musique qui est affirmée à Naples.
Et cette Parthénope, elle est bienveillante?
Oui, et Parthénope a un rôle tout à fait positif dans la cité de Naples. Il y a un culte de la sirène dans la ville. On ne parle jamais d'un rôle négatif ou d'une séduction, etc. Mais on parle aussi du rôle de Parthénope dans la pâtisserie de Naples. Donc, on attribue à Parthénope beaucoup de choses positives de la ville.
On aurait pu finir sur Parthénope de Domenico Sarro ou de Leonardo Vinci ou de Johann Adolf Hasse aussi, qui a un opéra Parthénope. Mais on va se quitter, on va rester dans l'univers du Nord, hein, avec cette figure de la Lorelei, parce qu'il y a un très bel enregistrement de Dietrich Fischer-Dieskau accompagné par Daniel Barenboim dans cette Lorelei de Franz Liszt, une des plus célèbres. Mais il faut dire quand même que c'est un très bel enregistrement.
Voilà.
Ich weiß nicht, was soll's bedeuten, dass ich so traurig, so traurig bin. Alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Thank you.
Dietrich Fischer-Dieskau, accompagné par Daniel Barenboim dans ce très beau lied de Franz Liszt, Die Lorelei. On se disait en écoutant, non pas qu'on le regrette, hein, Luigi Spina, mais qu'on était quand même très sages dans cette émission, parce que la Lorelei, il y a celle d'Hubert Félix Thiéfaine, il y a l'album de Dina Hagen, il y a dans la musique populaire, il y a beaucoup d'autres Lorelei.
On parle de Lady Gaga,
aussi.
On parle d'autres aussi dans le jazz. Il y a un CD de Chris Potter, qui est un saxophoniste américain, qui s'appelle Sirène.
Oui, un disque complet qu'on peut écouter.
Oui, un disque complet sur les passages de l'Odyssée, les différents personnages de l'Odyssée. On pourrait dire, comme deux philologues français, Frazier et Sirinelli, qui traduisent Plutarque, les sirènes sérines.
Ah.
C'est-à-dire les sirènes continuent à chanter,
oui.
Sa voix est persistante, oui. Toujours.
Merci beaucoup, Luigi Spina.
Merci,
nous vous retrouverons également sur le site de francemusique.fr, sur la page d'un air d'histoire. Nous indiquerons comme ça ce très bel article, Le savoir qui tue, ou de l'éternel dangereux pouvoir des sirènes, qui est extrait d'un colloque consacré aux sirènes d'Hélène Vial, également d'autres informations bibliographiques et discographiques. Cette émission Un air d'histoire a été préparée par Adèle Moll et Philippe Demenoux, réalisé comme chaque semaine par Christine Amado, au mixage aujourd'hui Philippe Mercher. Cette émission Un air d'histoire est en partenariat avec le mensuel L'Histoire, en kiosque depuis une semaine, le numéro de juin, avec un dossier intitulé Jérusalem, l'impossible capitale 1967-2017, qui promet d'être passionnant. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine en compagnie de Timothée Picard et de son son livre sur la civilisation de l'opéra et nous parlerons, figurez-vous, du fantôme de l'opéra. Très belle journée à l'écoute de France Musique.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.